savoir sûr.
Bonjour et bienvenue, je suis Martial You. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout savoir sûr, Tout savoir sur l'héritage des années Pompidou, le 2 avril 1974. Pour la seule fois à ce jour dans l'histoire de la Ve République, un président décédait dans l'exercice de ses fonctions. C'est aussi la fin symbolique d'une époque, celle des Trente Glorieuses. Mais finalement, l'époque ressemble beaucoup à la nôtre et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors que reste-t-il des années Pompidou ?
Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le gai Paris, c'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir.
Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais.
Jean Gabin et son célèbre « Je sais ». La bande-son de ce podcast, je vous l'annonce déjà, sera intégralement composée des musiques que vous entendiez en 1974 dans votre autoradio, avec en plus, tout au long de ce podcast, eh bien, un travail exceptionnel réalisé par Quentin Baron du service des archives de RTL, à qui je voulais rendre hommage dès le début de cette émission. On va replonger donc dans les 70s avec mes invités. Cette question, qu'est-ce qu'on a gardé de Pompidou et qu'est-ce qu'on devrait prendre de l'époque Pompidou, avec moi pour en parler, Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Business School, bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Flonneau, historien et spécialiste de l'histoire urbaine et des mobilités, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bonjour.
Bonjour.
Alors, évidemment, la fin de la présidence Pompidou, elle est marquée par l'inflation et la montée des prix du pétrole, un peu comme aujourd'hui. Écoutez cette interview du président face à Jean-Marie Cavada à la fin de l'année 73.
Va-t-on manquer de pétrole ou bien n'en manquera-t-on pas dans les 6 mois ?
Je fais appel et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage.
Jean-Marc Daniel, la France de 1973, elle affronte le premier choc pétrolier, elle découvre sa dépendance énergétique, on l'entend avec Georges Pompidou à l'instant. C'est un coup dur pour cette France fière, qui est encore celle du général de Gaulle, quelque part ?
Oui, c'est un coup dur parce que la France se rêve à l'époque comme étant une grande puissance économique en devenir. Il y a des prévisions qui annoncent qu'en 1990, la France sera la troisième puissance économique du monde, derrière les États-Unis, le Japon qui est en train de monter en puissance. Elle est très dépendante, effectivement, du pétrole. Le premier consommateur de pétrole en France, à l'époque, c'est EDF. L'essentiel de l'électricité est fourni par du pétrole. Et donc, quand le président parle, il y a déjà eu une déclaration de son premier ministre, Pierre Messmer, qui a fait une déclaration le 30 novembre. Il n'en appelle pas à l'esprit d'économie des Français, il leur appelle à leur civisme. Et il y a des mesures qui ont été prises. Donc, en particulier, on a interdit les Grand Prix de Formule 1. On a annoncé que les programmes de l'ORTF s'arrêteraient à 11h du soir, puisque la télé, c'est encore l'ORTF.
Oui.
Et avec quelques chaînes périphériques, dont RTL qui existait déjà. Et puis, mais on annonce que on ne va pas interdire la circulation pour le week-end. Donc il y a une espèce de volonté de dire, c'est le civisme qui va... Et puis, le dernier élément, c'est que Messmer initie le 30 novembre le programme nucléaire, qui sera confirmé par la suite au mois de au printemps qui suit.
La réponse énergétique de la France, c'est le nucléaire à l'époque. Et finalement, on n'est pas très très loin de ce qu'on entend aujourd'hui, y compris sur la sobriété et sur le nucléaire.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de pétrole. La différence par rapport à l'époque des années 70, c'est que le pétrole est stigmatisé aussi comme étant à l'origine des dérèglements climatiques. À l'époque, le pétrole est vécu comme étant la source naturelle d'énergie de la croissance économique. Et même si le rapport Meadows a été publié en 1972, donc le rapport sur les limites de la croissance. Ce que met en avant le rapport Meadows, c'est pas les dangers climatiques, c'est l'épuisement des ressources. Le rapport Meadows dit en 1990, par exemple, on va avoir un problème de pénurie du cuivre.
Mathieu Flonneau, On entend cet appel à la sobriété dès les années 70 avec le président Pompidou. Il y a une prise de conscience ou finalement, 50 ans plus tard, on est toujours à peu près dans le même état de sidération?
Non, il y a une prise de conscience, c'est sûr. Il y a une crise économique, elle vient d'être appelée. Il y a une crise environnementale naissante, en tout cas sa perception est naissante à l'époque. Cela vient d'être appelé, Georges Pompidou ne l'a pas manqué. Georges Pompidou a porté sur les fonds baptismaux le ministère de l'Environnement. Donc c'est apporté à son crédit. Il y a une crise sociétale également, dans la continuité de 68. Pompidou l'avait analysé en 68. Pompidou avait géré très largement la crise qui lui a donné d'ailleurs cette stature présidentielle que lui reconnaissait de façon ambiguë le général de Gaulle, mais qui lui reconnaissait ce qui lui a permis finalement de faire sa carrière ensuite de président. Mais cette crise sociétale, il la mesure, il en est très conscient, il sait très bien que les 10 prestigieuses, c'est-à-dire les 10 années de croissance qui viennent de précéder, sont sur le point de s'achever. Ses vœux présidentiels de 73 sont très graves, toute sa présidence est très grave, sa vie est devenue très grave, et il n'y a pas là de motif de légèreté, comme dans les bandes musicales, évidemment, de l'époque. C'est-à-dire que Pompidou prend conscience du fait que la société française va devoir s'ajuster à une modernité raisonnée désormais.
Oui, mais Mathieu Flonneau, vous écrivez dans le dictionnaire Pompidou, qui vient de sortir, un article sur la notion de bonheur.
Elle est fondamentale. Il en parle beaucoup.
Et il en parle beaucoup, alors que vous dites à l'instant que ce sont des années graves, un peu comme les années qu'on vit aujourd'hui, mais sans doute avec moins de légèreté, en tout cas avec une conscience du bonheur dans ces années-là qui semble plus forte qu'aujourd'hui.
Bon, tous les paradoxes sont là, évidemment. Georges Pompidou les a exprimés en fin lettré qu'il était dans le Nœud gordien, et il sait très bien qu'on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance. Oui. Il sait très bien que la France va souffrir là d'un déficit de transcendance, la France souffre d'un déficit d'idéologie, et d'ailleurs il est très méfiant vis-à-vis de cela, parce que les dernières pages du Nœud gordien sont à certains égards prémonitoires et prophétiques sur une possible montée du fascisme.
Et par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Alors pourquoi il y a moins de bonheur aujourd'hui avec les mêmes stigmates?
Ben parce que aujourd'hui, tous ces facteurs de rétrécissement de l'horizon se sont aggravés indiscutablement. La crise climatique, la surpopulation mondiale, des éléments fondamentaux qui à l'époque n'étaient que perceptibles dans leur limbe en quelque sorte, sont désormais au grand jour. Il y a une variable qui a été utilisée, on diminue le temps de travail. Alors on le diminue comment? Avec la France de 68, ben on ajoute une semaine de congés payés. On diminue également progressivement, mais il faudra attendre Mitterrand pour que ça passe.
Qui fait campagne d'ailleurs pour les 35 heures en 81.
Déjà, oui, bien sauf sûr. Que vous voyez, par rapport à notre époque, oui. Et c'est ce parallèle-là que vous tentiez d'esquisser, et sur lequel je vais abonder, par rapport à notre époque, on a diminué son travail. On a réorganisé le temps de travail. Et pourtant, on n'a pas gagné plus de bonheur. Et donc là, il y a des éléments qui... Dans les variables d'ajustement, on épuise une, celle du gain du temps de travail, celle des RTT, celle d'un loisir qu'on ne peut pas éventuellement financer et qui au contraire est générateur de frustration. Bref, là on a perdu une variable d'ajustement que cette société avait encore en ménagement, si j'ose dire.
Alors la crise énergétique, elle va aussi avoir bien sûr des conséquences sur l'emploi, on l'a un peu évoqué avec la montée progressive du chômage. Il va devenir structurel évidemment en dépassant le million de chômeurs à la fin des années 70, mais c'est déjà dans les préoccupations du président Pompidou.
Il est bien évident que si le ralentissement économique s'installe partout, se poseront de véritables problèmes d'emploi. Et nous savons que nous aurions les moyens d'une relance de l'activité, au moins sur le plan intérieur. Et qu'il ne faudrait pas que cela aboutisse simplement à relancer l'inflation. Et j'espère qu'on voudra bien me répondre autrement que par des grèves absurdes et des défilés dérisoires.
Dans les villes de grandes solitudes, moi le passant bien protégé.
Ah, Jean-Marc Daniel, dans le concert d'hommage pour les 50 ans, bien sûr, du décès de Georges Pompidou, vous avez publié une tribune assez critique dans Les Échos où vous reprenez une citation qu'on perçoit un peu dans ce qu'on vient d'entendre, « Mieux vaut l'inflation que le chômage ». Et vous dites en fin de compte que Georges Pompidou ouvre les vannes à la dépense publique et finalement initie ce qui va devenir la norme, puisque le dernier budget à l'équilibre est de 74, c'est-à-dire déficit et dette.
Oui, ce qu'il y a d'ambigu dans l'attitude de Pompidou, c'est son rapport effectivement à l'inflation. Il dit en 1967, alors qu'il est Premier ministre, que mieux vaut l'inflation que le chômage. Il répète ça à plusieurs reprises, y compris quand il est devenu président de la République. Et En 1967, il crée la NPE, et il dit « S'il y a 500 000 chômeurs dans ce pays, ce sera la révolution. Je ne suis pas là pour préparer 1848. » Et donc, il va accepter cette idée d'inflation, et de nouveau, ça rebondit au mois de novembre 1968, quand le général de Gaulle refuse la dévaluation. Pompidou critique cette décision. Il y a Giscard et puis un bloc, donc qui est incarné par Raymond Barthes, qui à l'époque est commissaire au plein, qui sont contre l'inflation. Il y a un bloc qui est plus, en disant, l'UDR de l'époque, puis c'est ce que ça s'appelle l'UDR, dit, écoutez, le drame, c'est le chômage, les gens sont prêts à réclamer, et puis, c'est du grain à moudre aussi, l'inflation, c'est le discours de Bergeron, c'est du grain à moudre, s'il y a de l'inflation, on peut distribuer des hausses de salaire, c'est spectaculaire, et les gens sont contents. Le vrai problème, c'est le chômage. Et Pompidou est ambigu jusqu'au bout, et donc, la question que je me pose dans ce papier, dans les échos dont vous avez parlé, c'est qu'aurait fait Pompidou
aujourd'hui,
aujourd'hui et surtout en 74-75, ouais, quand le rapport Bakraken arrive, s'il était arrivé au bout de son mandat, il a le rapport Bakraken sur la table, est-ce qu'il accepte l'inflation? Ce que je constate pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus faire d'inflation par la monnaie, c'est-à-dire on peut plus faire d'inflation par la dévaluation, et donc on maintient une demande excessive par la dette publique. Ce que ne faisait pas Pompidou. Pompidou le faisait par enchaînement inflation-dévaluation. Il s'axait sur la monnaie. Nous, on fait la même chose, sauf qu'on le fait, et avec toujours les mêmes conséquences. Au bout d'un moment, ben on fait venir Barre, on fait venir de l'or. Au bout d'un moment, on est obligé de resserrer les boulons.
Et on commence à entendre ce discours de retour à la rigueur, évidemment, Mathieu Flonneau.
J'ajouterais quand même que la parole publique n'est pas encore totalement dévaluée. Pompidou porte une parole qui est une parole de surplomb, une parole sage, une parole véritablement qui incarne un état fort,
mais
auquel on croit.
Mais plus performative.
Bien sûr.
Déjà.
Bien sûr.
Elle est encore...
Il y a une limite.
Mais voilà.
Il y a une limite.
Mal à changer.
Ça va lui être reproché. Et naturellement, la présidence qui va suivre, celle de Valéry Giscard d'Estaing, aura d'autres. Un autre tempo, une autre jeunesse, bien sûr.
Ah, il y a quand même la volonté de donner une chance aussi au dialogue social, aux partenaires sociaux, avec une valorisation des comités d'entreprise, vous allez l'entendre. Mais on est peu de temps finalement après mai 68 et les accords de Grenelle.
Pompidou à Strasbourg, discours choc. Notre démocratie n'est pas celle du parti unique, mais écoutons Jacques Chaput qui nous fait une synthèse de ce discours.
Georges Pompidou a apporté une idée nouvelle sur la cogestion dans les entreprises.
Une de nos tâches principales consiste à promouvoir dans les entreprises nationales ou privées une organisation nouvelle, permettant à tous les agents de l'entreprise non seulement de participer à ses profits, mais à sa vie. Telle est la destination naturelle des comités d'entreprise.
Mais en définitive, des propos tenus à Strasbourg, on retiendra surtout le vœu politique que Georges Pompidou a émis. Il ne faut plus de oui mais, il faut qu'au oui s'opposent les non, dans des perspectives qui soient bien naturellement constructives.
Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien.
C'est la fête, la fête.
Il ne faut plus de oui mais, on est assez loin du en même temps, si j'ose dire. Jean-Marc Daniel, juste, est-ce qu'on a beaucoup évolué sur ce dialogue social? Parce qu'on a l'impression d'entendre aujourd'hui un appel au dialogue social et on entend aussi des syndicats qui hurlent contre la réforme des retraites sans concertation ou encore se faire un peu tordre le bras sur les allocations chômage.
Alors, les rapports entre le pouvoir politique, le monde patronal et les syndicats sont toujours traditionnellement assez tendus. Néanmoins, ce qui me frappe, c'est par rapport à l'époque, il y a des mots qui ont totalement disparu. Le président de la République parle de cogestion. Le mot à la mode dans les syndicats, notamment à la CFDT, c'est autogestion. Oui. Et pendant les années Pompidou, c'est les années LIP. LIP, je rappelle, c'est cette horlogerie, ce fabricant de montres qui va être
LIP, c'est fini.
Et le premier ministre Pierre Messmer, au bout d'un moment, dit écoutez, LIP, c'est fini. Ouais. Sauf que ça continue. Les gens continuent à fabriquer des montres et à les vendre. Ça va être fini.
Pareil pour les mines.
Bien sûr. Bon, et donc l'autogestion est un mot qui a disparu. Et la deuxième chose qui a disparu, c'est le grain à moudre. C'est-à-dire le grain à moudre, c'est les grandes rencontres entre les syndicats, le gouvernement. Et là, Pompidou s'inscrit dans l'héritage de De Gaulle. C'est-à-dire la politique des revenus qui a été conçue par Massé quand il était commissaire au plan, après les grèves des mineurs de 63. Et donc cette idée qu'il faut se réunir, qu'il faut négocier, et que justement, comme il y a de l'inflation, on peut distribuer cette hausse des salaires qui est la compensation de l'inflation de façon non pas automatique, mais en négociant avec les syndicats.
Mathieu Flonneau, oui, ce dialogue social, cette co-gestion, effectivement, qui peut y avoir après les accords de Grenelle notamment, c'est un peu étiolé peut-être avec l'OTAN.
Absolument, mais c'est quelque chose qui est très frappant. C'est moins dit, c'est moins rappelé, mais même le secteur automobile en 72, le quai de Javel ferme, les usines Panhard avaient fermé peu avant. On est déjà dans une logique effectivement de forte désindustrialisation. L'automobile, ça viendra encore les décennies suivantes, mais la métallurgie, les mines que vous avez citées sont des secteurs à reconvertir. Et donc la problématique n'est pas la même dans les territoires, parce que des régions entières qui étaient à la tête de cette révolution industrielle que la France. Et la première archive que vous avez citée est très intéressante, c'est que Pompidou nous explique ce qu'est devenue la France, une grande puissance industrielle.
Et alors Jean-Marc Daniel, l'entend, je fais toujours bien sûr ce jeu de ping-pong avec aujourd'hui, mais le discours de réindustrialisation, c'est celui qui est porté aujourd'hui par Emmanuel Macron avec le programme France 2030. C'est la même philosophie? Est-ce qu'on a les mêmes marges de manœuvre?
Alors c'est un peu la même philosophie. Alors entre-temps, on est passé de 6 millions de salariés dans l'industrie qui est le sommet en 1974, ouais. Avec 1975 les premières crises, et notamment le début de la sidérurgie, la crise de la sidérurgie, qui va créer cette expression par la suite. Dès qu'un secteur est en situation délicate, on va dire c'est la nouvelle sidérurgie. La sidérurgie devenant le symbole effectivement de la crise industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a une ambiguïté là aussi parmi les élites sur l'avenir de l'industrie française. Pompidou se mêle jusque dans les détails. Il va regarder comment on réorganise L'Oréal, il va organiser des fusions dans des entreprises qui sont pas des entreprises publiques. Et donc il y a déjà à l'époque une espèce de débat au sein de l'élite entre est-ce que l'avenir c'est l'industrie, c'est de faire de la France une nouvelle Allemagne ou tout ça, ou est-ce que l'avenir c'est de dire ça va être l'informatique, ça va être... On est encore en plein plan calcul, c'est-à-dire oui. Que dans l'héritage de De Gaulle, il y a aussi le plan calcul.
Et... Mais par rapport à aujourd'hui, j'ai envie de dire, on pose le même diagnostic, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à déterminer quelles seront les énergies, les industries du futur. Aujourd'hui, c'est le cas aussi. On parle d'intelligence artificielle, bien évidemment. Est-ce que la France est en mesure aujourd'hui d'avoir, de saisir les mêmes opportunités économiquement et d'un point de vue industriel qu'à l'époque?
Alors ce qui manque à la France, effectivement, ce qui...
Décroché entre-temps.
Oui, la France a décroché, et on le voit bien, elle a décroché, parce que par rapport à l'époque Pompidou, je reviens au fait qu'il y a un outil que Pompidou considère comme étant l'outil de référence, qui est la dévaluation. C'est-à-dire que, il le dit bien, quand on perd de la compétitivité, c'est pas la peine de pourchasser les salariés et tout ça, on regagne la compétitivité par la dévaluation. Et le choix inverse a été fait par nos élites, c'est de dire non, on va avoir la même monnaie que l'Allemagne. Et donc, à partir de ce moment-là, les correctifs sont autres. C'est-à-dire, on le voit bien, c'est le CICE, c'est tous les problèmes de compétitivité sont résolus par ce qu'on appelle une dévaluation interne. Et donc, d'une certaine façon, j'en reviens là, l'héritage Pompidou, inflation, dévaluation comme outil, ne peut plus fonctionner exactement à l'identique. Et donc, on essaie d'inventer d'autres outils, mais à mon avis, qui sont aussi pernicieux, c'est-à-dire d'être public, parce que quand on réindustrialise, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va donner des subventions.
C'est la bonne dette.
C'est de la bonne dette, on va donner des subventions. On fait venir une entreprise de Taïwan à Dunkerque et on va subventionner cette entreprise. Donc là, l'outil, c'est devenu la dette avec toujours le même objectif. Alors que le bon objectif, pour moi, ce serait d'avoir une vraie compétitivité fondée sur la formation, sur l'efficacité du capital et des choses comme ça.
À l'époque, il y a quand même une réserve de modernité. On peut penser au programme de télécommunication. Le plan calcul a été évoqué, mais on peut penser au programme autoroutier, on peut penser au programme qui va devenir celui du TGV. Donc un grand aménagement du territoire qui est en fait une réserve, un peu comme tout à l'heure ce que j'évoquais sur le temps de travail, c'est-à-dire là on avait une marge. Mais cette marge de progression, aujourd'hui, on voit bien à quelle limite elle se trouve confrontée, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus créer une infrastructure lourde.
Eh ben c'est justement ce dont on va parler dans la dernière partie de cette émission, puisque Georges Pompidou, c'est le grand président bâtisseur en matière de transport et d'urbanisation. On rend hommage au côté État stratège, on l'a évoqué, mais c'est vrai que Pompidou aimait la bagnole, oui. On va le rappeler avec un déplacement que vous allez entendre aux 24 heures du Mans. Et puis, il est aussi l'homme du périphérique, inauguré en 1973. Archive.
Le président de la République a choisi Le Mans, non pas parce que tout à l'heure, après avoir fait un tour de piste sur le circuit des 24 heures, au volant de sa SM Maserati, il donnera le départ du carrousel automobile, mais parce que les ouvriers de Renault au Mans l'an dernier avaient déclenché une grève qui posait le problème de leurs conditions de travail. Voyons avec l'envoyé spécial de RTL, Robert Daran, comment et dans quelles conditions il a été prononcé.
C'est au cours de la réception qui vient de s'achever à la préfecture que M. Pompidou a appris qu'il était le 11e chef d'État à rendre visite au Mans, le premier ayant été Charlemagne en 770.
Le tour de Paris, sans feu rouge et sans arrêt, pourvu bien sûr qu'il n'y ait pas de bouchon. Voilà ce que pourront s'offrir tous ceux d'entre vous qui, après 9h ce matin, feront le tour complet des boulevards périphériques. Au total, 36 km qui ont coûté 3 milliards. Monsieur Herzog, le directeur général de l'aménagement urbain, a donné des précisions à Françoise Parinaud sur cette route qui ceinture désormais totalement Paris.
Il y a souvent saturation du boulevard périphérique à certains endroits, bien sûr à certaines heures. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au moment de son achèvement, le boulevard périphérique est dépassé ?
Eh bien, je ne le pense pas. Quand on regarde bien d'où vient cette saturation, on s'aperçoit que le plus souvent, elle provient d'accidents ou d'incidents légers.
J'adore cette réponse. 50 ans plus tard, le périphérique saturé uniquement par quelques petits incidents. Mathieu Flonneau, Georges Pompidou, il a toujours défendu la voiture, c'est vrai. Il a aussi suivi du début à la fin le projet du périphérique, hein, puisqu'il a été...
Il ne l'a pas inauguré, c'est Pierre Messmer.
Voilà, c'est Pierre Messmer qui l'inaugure. Mais il est à l'origine lorsqu'il est au cabinet de Gaulle, puis il suit ça comme Premier ministre. Et puis évidemment, sous sa présidence, on l'inaugure définitivement. Il est aussi à l'origine du RER, même si c'est Giscard, pour le coup, qui va marquer les esprits en pilotant. Autant un RER.
Il y a eu plusieurs inaugurations. Ouais,
donc c'est quand même, pour le coup, l'aménagement et le transport au cœur de sa politique.
Tout à fait, et c'est un sujet qui est très sérieux et qui ne mérite pas l'anecdotisation. Je l'entends trop souvent résumé à la formule « il faut adapter la ville à l'automobile », qui est fausse. Georges Pompidou avait une vraie vision aussi des transports publics, même de la marche. Donc il s'agissait de préserver l'urbanité qualité à laquelle il était très attaché comme résident du centre de Paris. Moins que le périphérique, d'ailleurs, peut-être évoquons la voie express. Il parlait de traverser Paris en 15 minutes, ce qui était faisable. Oui. Vous imaginez quelle utopie aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on est en train de déconstruire la vision de Pompidou aujourd'hui, ou d'y revenir?
À certains égards, évidemment qu'on l'a déconstruit. À certains égards, c'est aussi une paresse idéologique qui consiste à charger de tous les mots ces 30 glorieuses qui seraient devenues des 30 piteuses. Alors que, pardon, il y avait une grandeur d'esprit, il y avait une vision, il y avait une vraie inclusivité de l'époque. Alors que le mot est sur toutes les lèvres aujourd'hui, on pourrait en reparler. C'est une époque qui fait du citoyen français à partir de beaucoup d'immigrés. C'est une époque qui dont l'école assure une promotion sociale. Il y était très attaché, enseignant lui-même. Bref, il y a des enthousiasmes de l'époque qui, aujourd'hui, sont parfois raillés, ça c'est grave. Méconnus, c'est encore plus grave. C'est quand même un enjeu de débat.
Et ce que vous dites, c'est que sa vision, elle est très actuelle par rapport à la mobilité. C'est-à-dire que c'est multimodal.
Mais tout à fait.
Il y a une vision plus globale que simplement la voiture et la SM Maserati qu'on entend évidemment, qui est aussi le symbole de la fin peut-être de ces 30 glorieuses.
C'est le symbole comme le Concorde. Il y a des photos
exactement,
très spectaculaires
voilà.
De ce toujours plus. Mais au-delà de ça, bien sûr. Et puis ses dernières visites comme président, ses dernières visites protocolaires, il y tenait beaucoup. C'était le salon de l'automobile et il rappelait à quel point ce secteur était important.
Alors, quand on parle transport, évidemment, et déjà dans les années 70, se pose la question du progrès technologique et de l'environnement en parallèle. Et d'ailleurs, c'est vous allez l'entendre, une vision assez particulière que présente Georges Pompidou par rapport à ça, puisque il va définir progrès technique et environnement. Et je dirais que c'est, on en discutera juste après, un discours qui aurait sans doute du mal à passer aujourd'hui.
Il faut se résigner au progrès économique. Et à partir du moment où on se résigne, il faut essayer au contraire de l'organiser et de le contrôler. Alors, est-il compatible avec l'environnement? Mais évidemment, il est compatible avec l'environnement. Ce n'est pas simplement le même environnement qu'avant. On n'arrêtera pas le progrès.
Eh bien, un certain nombre d'associations de défense de la nature et du cadre de notre vie trouvent la semaine de l'environnement de la Porte de Versailles un peu trop, comment dire, officielle. Ils trouvent qu'elle fait la part un peu trop belle aux industriels pollueurs qui ont senti le vent et qui se présentent maintenant comme des anti-pollueurs ou comme des champions de la lutte contre les nuisances.
Ça, ce discours-là, il rappelle quand même un peu ce qu'on entend chez certains de nos champions industriels aujourd'hui. Et ça pourrait s'appeler du greenwashing aujourd'hui.
Hein. Oui, le greenwashing a commencé d'emblée. Hein. Faut pas se faire d'illusions.
Ça rappelle aussi quand même un peu la phrase d'Emmanuel Macron sur les opposants au progrès qui voudraient nous ramener au temps de la lampe à pétrole et des Amish. On vit toujours dans cette idée que le progrès va résoudre la problématique environnementale?
Il y a évidemment cette tendance techno-solutionniste, comme on dit, qui existe. J'ajoute quand même que si les archives étaient plus diverses, on pourrait reprendre la lettre qu'il avait écrite à Jacques Chaban-Delmas demandant aux ingénieurs des ponts et chaussées de ne plus couper les arbres sur le bord des routes, parce qu'il y a une question de civilisation autour de l'arbre. Et il l'avait bien perçu, et il savait l'exprimer. Vous aviez là une tension entre un paysage naturel et une perception, alors tout paysage est construit, bien évidemment, mais une perception d'une France éternelle, d'une France où la beauté, enfin il osait employer le mot, où la beauté a son rôle, et une ville où l'urbanité a son rôle également, qui devait être mise quand même en contrepoint d'une société où les ingénieurs auraient eu raison de tout. Et donc Pompidou n'a pas dit amen à toute modernité. On est quand même dans une perspective où les ambiguïtés sont toutes présentes, où Georges Pompidou laisse sa chance à un progrès plus humain. Et il remet le progrès au centre d'une conception humaniste. Mmh. C'est tout le Neugordien. C'est toute cette perception où, précisément, on se retrouve confronté à des choix qui engagent, mais de l'intime à la collectivité.
Mais c'est possible aujourd'hui, ce même discours?
On a parlé de Macron comme Pompidou vert, le greenwashing, vous venez de l'évoquer. Et après, il faut pas avoir une conscience géopolitique de poisson rouge. C'est souvent ce que j'explique. C'est-à-dire que, vis-à-vis de l'automobilisme, j'entends tous les discours. Si on remplace toutes les voitures par des voitures chinoises, alors que le besoin de mobilité demeurera identique, on n'aura rien gagné à l'affaire et on aura perdu cet élément de soutenabilité qui est aussi très important et qui doit être mis en parallèle de la soutenabilité sanitaire et écologique et la soutenabilité des territoires et la soutenabilité économique.
On va conclure, Jean-Marc Daniel, avec une citation que je veux citer parce que je la trouve incroyable et elle rebondit sur ce que vous disiez, Mathieu Flaneau. Ça date de 1970. Je parle de la conscience de l'écologie chez Georges Pompidou et de l'évolution et du progrès. Georges Pompidou, en 70, dit « Je suis de ceux qui pensent que dans 50 ans, la fortune consistera à pouvoir s'offrir la vie du paysan aisé du début du XXe siècle, c'est-à-dire de l'espace autour de soi, de l'air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain. » On est encore dans une crise agricole qui fait les gros titres de l'actualité. Et j'ai l'impression d'entendre les aspirations de tout urbain à la sortie du Covid, là.
Oui, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est effectivement de manger des œufs frais. C'est-à-dire que quand il dit ça en 1970, on est juste au moment où on est en train de basculer sur la politique agricole commune. C'est-à-dire que on a commencé une politique agricole commune avec un objectif de production, parce que l'Europe en 1957 est incapable de se nourrir. Elle est obligée d'importer une partie de sa nourriture. Et dans les années 70, on commence à rentrer dans les années de crise de surproduction. C'est les années du beurre d'intervention, c'est les années du rapport Mansholt, c'est les années de la poudre de lait quand on ne sait pas quoi faire, c'est les années où on brûle, où on transforme des betteraves à sucre en alcool et ensuite on brûle cet alcool dans les chaudières d'EDF. Donc c'est des années où effectivement l'agriculture est en train de passer normalement d'une logique de production à une logique de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Pompidou, là, est un de ceux qui dit il va falloir raisonner différemment sur l'agriculture et raisonner vraiment en termes de qualité et plus uniquement en termes de quantité. Pour conclure, les économistes disent que c'est le moment où on sort du piège nutritionnel. C'est-à-dire, pendant des siècles, l'humanité a eu faim. Et à partir du XXe siècle, l'humanité commence à se poser la question de la qualité de ce qu'elle mange et non pas de la quantité de ce qu'elle mange.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Business School. Mathieu Flaneau, historien et spécialiste de l'histoire urbaine et des mobilités, professeur à Paris 1, Panthéon Sorbonne. La réalisation de ce numéro était assurée par Raphaël Nivois. Merci encore pour le travail exceptionnel de Quentin Baron du service archives de RTL. Merci pour votre écoute et vous pouvez commenter, noter ce podcast sur vos plateformes habituelles et l'application RTL et le site rtl.fr.